maintenant Jean-Jacques Chavaz, édité aux éditions de l'Air justement. Vous êtes l'auteur de La cime à la racine. Je commencerai par une question essentielle. Pourquoi écrivez-vous ? Question pas facile.
J'écris d'abord pas beaucoup. J'écris par période. Mais j'aime les mots. J'aime à certains moments mettre en phrase certaines choses, certaines sensations. Et c'est ce qui m'a amené à ce dernier livre.
Ces sensations, c'est des sensations que vous avez vécues, c'est des choses qui vous tiennent à cœur.
Oui, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va faire des romans, qui va entrer dans la fiction. Je ne suis pas capable du tout. La seule chose qui m'intéresse, c'est la vie, et forcément la vie à partir de la mienne. Mais non pas pour rester à mon histoire personnelle, parce que finalement c'est très secondaire, mais afin d'en dégager le sens.
Or, De la cime à la racine est une autobiographie, on peut dire ça, n'est-ce pas ?
Oui, on peut le dire, oui.
Et parle notamment de votre vocation, parce que vous étiez un ancien prêtre catholique.
Voilà.
Et parle aussi de votre détachement définitif de l'Église. Qu'est-ce qui a réellement déterminé votre abandon de la soutane ? Vous le dites, vous donnez des pistes en tout cas.
Alors écoutez, je crois que si vous m'aviez posé la question, une année avant, tu vas quitter le clergé, tu vas quitter l'Église, j'aurais dit non, pas du tout, ça sera jusqu'au dernier souffle. Mais voilà, les événements ont conduit à ce choix d'une manière un peu rapide et forte. Il faut dire que le contexte était 1968, donc ça évoque beaucoup de choses pour ceux qui connaissent cette histoire-là, qui est l'histoire ancienne pour les jeunes, bien sûr. Mais pour nous, c'était une année très, très importante. Et je n'ai pas quitté le clergé pour me marier, par exemple. Ce n'est pas pour une femme, disons, que j'ai quitté le clergé. Parce que beaucoup l'ont fait, je crois, pour ça. Mais d'autres l'ont fait pour une autre raison, à cause de l'institution elle-même,
parce
qu'ils ne se
sentaient
pas.
Ceux-là.
Voilà, je fais partie de ceux-là. Je ne connaissais pas du tout ma femme quand j'ai quitté le clergé. Mais par contre, je dirais que c'est quand même indirectement à cause de la femme, parce que j'étais embarqué dans le choix d'un ami qui un jour m'a dit, bien voilà, je suis amoureux. Et comme nous étions très liés et comme il se passait beaucoup de choses entre nous, j'ai senti qu'à ce moment-là, ça déstabilisait toutes mes convictions théoriques, si on peut dire, voilà.
Donc ça, c'est le point de départ. Et puis aussi, comme vous dites, vous avez des choses à reprocher à l'institution de l'Église. Quelles sont ces choses que vous lui reprochez ?
Écoutez, en réalité, je n'ai pas tellement de grandes déclarations à faire à ce sujet. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas parti pour des questions dogmatiques, parce que mes convictions théologiques avaient changé. Je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un théologien, à proprement parler. Je suis parti vraiment pour des questions de relations, parce que je me sentais plus à l'aise, parce que je sentais que je ne pouvais pas vivre cet idéal de l'Église tel que je l'imaginais. En fait, c'est comme ça que je suis parti. Alors, forcément, en route, il y a la question de la femme, il y a la question donc du célibat, etc., qui ont été embarquées dans le choix.
En parlant de la femme et du célibat, il y a des belles pages sur le corps qui reprend sa liberté, si l'on veut, et puis aussi sur la femme que vous avez épousée. Ça semble avoir joué un rôle évidemment marquant dans votre vie.
La femme que j'ai épousée.
Ça vous a les deux choses en fait. Je les ai liées dans mon esprit, elles étaient liées. Le corps qui reprend la liberté et puis la femme que vous avez épousée.
Oui, tout à fait, parce que là, je reviens peut-être au titre que j'ai mis, de la cime à la racine. C'était pour exprimer ce passage de la tête aux pieds, du ciel à la terre. De la spiritualité à la matérialité, si on peut dire, comme ça, schématiquement, Donc il fallait... on nous avait mis dans une direction tout à fait différente, c'est-à-dire on mettait en quelque sorte la charrue avant les bœufs. On nous disait d'abord de se détacher de tout. Quand on passait sous la porte au grand séminaire, il était inscrit « renonce à toi-même ». Donc tous les jours, quand on passait sous cette porte, il y avait cet appel lancinant. Et alors il a fallu, en quelque sorte, là on nous donnait un peu, disons, on essayait de nous donner les clés du ciel, si on peut dire, mais les clés de la terre, nous ne les avait pas données. Renoncer, mais quand on ne connaît pas son corps, quand on ne l'a pas habité, c'est plus un renoncement, c'est une espèce, un exercice bien, bien difficile. Voilà, alors c'est clair qu'il a fallu faire une reconquête de mon corps, de la prise de conscience de mon corps.
Malgré tout cela, vous êtes resté croyant, très forte, je crois.
Oui,
c'est le sentiment
je peux
qu'on a
le dire.
En tout cas en lisant.
Oui, tout à fait, si vous voulez. Moi, en quittant l'Église, je n'ai pas quitté ou le clergé ou l'institution. Je crois qu'il faut préciser ça parce que je garde le mot Église, mais je sais qu'il est complètement dévalorisé, suivant comment on l'entend, à cause de l'institution, justement. Et quelle était votre question déjà?
Je crois que vous étiez croyant.
Oui, voilà, si vous voulez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je n'ai pas écrit mon histoire pour me raconter. Je crois que c'est un exercice qui se fait beaucoup aujourd'hui. Bien sûr, apparemment je suis tendance, mais en réalité, c'était pour vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour découvrir le sens de ma vie, où cela me conduisait. Parce qu'en réalité, en quittant l'institution, je ne quittais pas l'héritage de l'institution. Je reste attaché aux valeurs évangéliques, je reste attaché aux toutes données bibliques du christianisme. Simplement, si vous voulez, cette fidélité m'amenait à le vivre à travers tout mon être. Donc à travers beaucoup d'éléments, vous avez évoqué le corps, donc la sexualité, donc la rencontre aussi avec la femme. Et tout ça, si vous voulez, c'était justement pour relier, comme je disais tout à l'heure, l'esprit au corps, relier la spiritualité, la matérialité, parce que tout ça ne fait qu'un, en réalité. Je n'aurais pas mis le titre « La cime et la racine », c'est « La cime, de la cime à la racine », c'est-à-dire que c'est un mouvement qui fait unité entre l'esprit et le corps, etc. Alors, dans mon cas, forcément, étant parti déjà enfant, adolescent, dans cet idéal mystique de transcendance, etc., et de service, je partais très haut, mais il fallait que je m'habite, il fallait que je fasse descendre tout ça. C'est le mouvement d'ailleurs, pour moi, de l'incarnation, qui est une des grandes données du christianisme, auquel je suis très attaché. Peut-être que pour d'autres, c'est peut-être le mouvement inverse de la racine à la cime, parce que certains sont peut-être plongés dans la matérialité, pour eux il n'y a que ça qui compte, il n'y a que la matière, etc. Mais peut-être qu'ils ont alors, par contre, à faire le mouvement inverse de nouer les bouts. C'est le problème de relation entre le spirituel et le matériel, ou le fini, l'infini, etc.
Jean-Jacques Chavaz, vous avez dit que vous écriviez pour mieux vous comprendre vous-même.
Oui.
Est-ce que c'est pour ça que vous avez construit votre texte thème par thème et non pas chronologiquement?
Vous l'avez remarqué donc.
Oui, j'ai remarqué.
Il y a quand même un peu de chronologie.
Oui, il y en a quand même, voilà. Mais il y a beaucoup d'allers-retours dans le passé.
Voilà.
Ça se construit autour de thèmes plus
voilà,
que dans
voilà,
l'ordre du temps.
Voilà, j'ai pas voulu que ça soit absolument chronologique. Il y a des éléments discontinus, effectivement, d'allers-retours. D'ailleurs, j'aime bien l'aller-retour, vous voyez, de la cime à la racine, de la racine à la cime.
Est-ce que c'était pour vous aider dans votre réflexion et dans votre connaissance de vous-même? Ou est-ce que c'est une forme qui vous semblait... C'était un choix esthétique?
Il y a un choix esthétique, certainement. Mais au départ, si vous voulez, ce livre, je ne savais pas où j'allais. Je devinais peut-être 8 chapitres comme ça que j'avais notés. Voilà ce que je pourrais dire, dans quelle direction je pourrais dire certaines choses. Et plus j'avançais... Plus les chapitres arrivaient un par un, comme dans un collier, les perles. Et à mon étonnement, j'arrivais à 30 chapitres, pas des grands chapitres, mais enfin 30. Et j'étais surpris moi-même, au fond, d'une certaine manière, j'étais étonné moi-même de ce résultat.
Donc c'est quelque chose qui est venu assez naturellement.
Oui,
Marie-Jeanne Hurec, vous êtes l'auteur de La salle d'attente, publiée aux éditions de l'Air. Tout à l'heure, on parlait avec Jean-Jacques Chavaz de verticalité, entre autres, et de spiritualité. La salle d'attente est un roman absurde. Et ma question, c'est, est-ce que le monde de l'absurde est un monde sans Dieu ?
Oula.
En ce sens que, puisque le monde est absurde, c'est peut-être justement parce que il manque un, bah évidemment parce qu'il manque un sens et une aspiration. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est peut-être ça la question que pose le roman absurde.
Oui, qu'est-ce qui se passe après ? Oui,
En tout cas, la salle d'attente, oui. Enfin, ce qui se passe après. Donc la mort est un sujet, est le sujet de la salle d'attente.
Oui. Moi, je ne crois pas du tout en un dieu. Donc, ça ne simplifie pas la réponse à cette question. S'il y en avait un, en tout cas, ce serait le roi, l'ordinateur, pour reprendre un vieux terme, de l'absurde, à mon avis. Parce que je trouve qu'on est confronté tous les jours dans la vie réelle à des choses d'une absurdité totale. Que si vraiment quelqu'un est en charge de ça, alors c'est le roi de l'absurde, ouais.
D'accord. Et justement, donc je vois que ça répond un peu à ma question, qui est, le choix de l'absurde est-il défini par un rapport au monde particulier ? Ce rapport au monde, c'est justement le constat de...
Oui, je pense que effectivement, je suis sensible à toutes ces choses absurdes que je côtoie, qu'on côtoie tous les jours, et je retranscris ça dans les livres, en exagérant évidemment un petit peu l'absurdité pour que ce soit encore plus absurde. Mais je pense que le fond vient vraiment de choses qui ne jouent pas tellement, à mon sens.
Mais est-ce qu'en écrivant, vous essayez de mettre un petit peu d'ordre dans ce monde, malgré tout ? Malgré le fait que vous en accentuez l'absurdité, est-ce que par l'acte d'écriture, vous essayez de mettre un peu d'ordre ?
Les livres sont très construits, donc c'est vrai qu'il y a toute chose à sa place, donc il y a un ordre que je recrée moi-même. Est-il le même que celui dans lequel nous vivons ? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est très... On peut construire, on peut mettre un ordre à l'absurde, ça c'est vrai, l'ordonner.
Est-ce qu'il y a une quête, une recherche derrière ces textes ? Est-ce que vous essayez de répondre à des questions lancinantes avec ces romans ?
Oui, je pense que le thème de la mort m'interpelle beaucoup, vu que, étant donné que je ne crois pas à un dieu, forcément que je meurs, t'as quelques questions pour la suite des événements. Et j'essaye de trouver différentes solutions qui pourraient arriver dans un monde... dans le monde que je me crée, disons que j'imagine qu'il pourrait y avoir ça ensuite, après la mort. Mais je pense que dans quelques années, je pourrais avoir une vision différente et imaginer un nouveau monde. Mais c'est vrai que, étant donné le postulat que je ne suis pas croyante, il faut pallier quand même à certaines questions. Et c'est peut-être pour ça que j'écris aussi des livres sur ce thème.
Absurde. Sur le thème de
sur
la
le
mort.
Sur le thème de la mort.
Et absurde aussi. Et peut-être.
Peut-être.
Dans la salle d'attente, on n'a pas encore dit de quoi il s'agissait exactement, on n'a pas raconté l'histoire. Une jeune fille arrive dans un village qu'elle veut quitter pour aller ailleurs, mais elle ne peut pas parce que les bus sont en grève. Et dans ce village, il y a des vieux pancartes, c'est-à-dire des vieux qui portent des pancartes, quel que soit le temps, dehors, pour indiquer aux villageois qui est qui, de sorte qu'il y a une pancarte pour indiquer qui est le boucher, par exemple, hein, c'est juste. Et puis, ça c'est une idée qui m'a fait beaucoup rire, qui m'a beaucoup plu. C'est je crois, ce qui m'a le plus frappé dans le livre. Et après, tout est une suite. Mais cette idée, d'où est-ce qu'elle vous vient ?
Justement de la réalité. À Londres, ça se fait très couramment d'engager des retraités ou des vieilles personnes pour rester toute la journée sur le trottoir pour indiquer un magasin qui est dans une rue annexe un peu sombre et qui est mal indiquée. Et ils restent là sous la pluie, qui pleut relativement souvent à Londres. Ils restent là toute la journée, fixe, à indiquer quelque chose.
Vous êtes également l'auteur d'un recueil de nouvelles, Foisonnement dans l'air. Ces nouvelles-là, de quoi parlent-elles ?
Aussi beaucoup de la vieillesse, aussi quelques-unes de du système d'administration, enfin des fonctionnaires. Il y a aussi une sur un compositeur que j'ai rencontré, alors que je travaillais dans un théâtre, et puis il m'a donné l'inspiration et pour un documentaire et pour une nouvelle. Donc il y a un peu de tout.
Il y a un peu de tout, mais la vieillesse revient.
La vieillesse revient aussi, ouais.
Pour en revenir à la salle d'attente, c'est un livre qui parle de la mort, mais qui est drôle malgré tout.
Ah ben oui, parce que ben oui, il faut quand même dédramatiser ce qui nous attend, ou bien rigoler pour l'apprivoiser un peu mieux. Donc oui, puis bon, ça fait partie de mon caractère, je pense de mettre un peu d'humour partout.
D'accord. Bah d'ailleurs, il y en a aussi de l'humour dans le film qu'on a pu voir au Vision du Réel, au festival à Nyon. Il s'agit de Monotone, Monotone, qui parle de trois dames de 80 ans qui travaillent encore. Et alors, le spectateur est quand même obligé d'avoir un regard assez... ces dames, à la fois... Il encourage son admiration parce que c'est pas, elle travaille à 80 ans, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et en même temps, on rit aussi, parfois. Qu'est-ce que vous avez essayé de montrer à travers ce documentaire-là?
Bon, déjà, il y a deux choses. Il y a que c'est pas parce qu'on a l'âge de la retraite qu'on est foutu et qu'on est inutilisable pour la société. Et donc, c'est par le biais du travail que ces dames ont décidé de montrer qu'elles étaient encore là. Et ensuite, le fait qu'on rit, parce que tout simplement, arriver à un certain âge et vouloir faire certaines choses, par exemple, une des dames fait a commencé le patinage à 80 ans, forcément, y a quelques événements cocasses qui sont liés parce qu'on n'est plus aussi en forme qu'à 10 ans, donc forcément, il y a certaines scènes qui deviennent drôles du fait de leur vieillesse.
Mais est-ce que ça, c'est le regard du spectateur qui a plein de préjugés et puis qui a une vision du monde assez englobante? Ou est-ce que c'est quand même le regard du réalisateur aussi qui a forcé certains traits, certaines caractéristiques de ces personnages?
Les caractères à la base sont drôles, mais on peut, en tant que réalisateur, notamment par le montage, les faire ressortir de manière encore plus forte, plus drôle. Enfin, on peut quand même donner une petite teinte, ça dépend. Mais tout ça se passe après au montage. Mais à la base, elles sont quand même très drôles de nature.
C'est des personnes de nature extravagante, peut-être?
Oui.
Voilà. Et vous avez choisi de monter ces images pour montrer des personnes, pour encore que le spectateur puisse le voir encore plus.
Je pense qu'aussi elles sont très extravagantes parce que, comme elles le disent, arrivé à un certain âge, on n'a plus rien à perdre, donc on lâche tout et on fait exactement comme on veut. Donc ça donne forcément des comportements un peu extrêmes des fois pour nous qui sommes encore très normés.